9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bien le bonjour mes camarades, Maître Serrane est ravi de vous retrouver. Bon, il faudrait peut-être que j'arrête de parler de moi à la troisième personne, mon cher Philippe.
Oui, parce que ça commence à faire un peu
je vais voir ça.
Alain Delon.
Ouais, je vais voir ça, avec Maître Serrane bien sûr, et donc avec moi-même. En fait, non, ça sent la folie tout ça, mais il y a de quoi devenir fou avec ce qui se passe dans ce pays, notamment en raison de ce qui s'était produit la semaine dernière, et je crois de tel que c'était vendredi dernier, alors que le voile islamique a fait son arrivée dans les tribunaux britanniques il y a à peine quelques mois, en la personne d'une femme qui s'appelle Madame Rafia Ashrad, 40 ans, qui est devenue, tenez-vous bien, la première juge musulmane portant le hijab. D'ailleurs, on en a à peine parlé hein, dans ce pays. T'imagines le truc, hein, une juge voilée, alors que dans ce pays qu'est la France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance...
Ah non, mais c'était pas vu arriver.
Ouais, bon, bah oui, voilà. Donc, comme dirait l'autre, on a selon l'expression consacrée par l'Académie française, mon cher Philippe, chier dans les bottes de Mademoiselle Mariam Pougetou, la vice-présidente de l'UNEF, hein, qui était vêtue d'un hijab, alors, lors d'une séance de travail à l'Assemblée nationale. Cette personne était juste venue parler, sur invitation, des conséquences du coronavirus sur la jeunesse. Et la plupart des députés se sont indignés. Ils ont quitté la salle, alors même que le règlement n'interdit aucunement ce type de vêtements. Mais, selon Madame Lang, députée LREM. Quand on vient devant les députés participer aux travaux de l'Assemblée, s'adresser à la représentation nationale, il me semble souhaitable qu'on ne porte aucun signe religieux ostentatoire. Ouais, c'est ça. Allez, mais barrez-vous. Non, mais c'est trop grave ce qu'elle a fait. Bah oui, elle est venue avec son voile, mais écoutez plutôt cette personne, écoutez ce qu'elle a à dire au lieu de vous focaliser sur sa tenue vestimentaire. Quand je pense que ces mêmes parlementaires, mon cher Philippe, sont prêts à l'arrêt des fesses des femmes voilées des pays du Golfe. Eh oui, parce que là, le voile, ça ne dérange pas, normal, hein, ces musulmanes, on les aime, elles ont un pouvoir d'achat illimité. Y aurait-il une extrême droitisation des esprits dans ce pays? Telle est la question personnellement. Je suis pas un fan du voile, mais je pars du principe que chacune a juste le droit de s'habiller comme elle le souhaite. Nos politiques n'ont toujours pas compris, mon cher Philippe, que ce type de réaction pousse certains musulmans à se regrouper entre eux et à s'exclure de la société française. Je mets des guillemets à société française car je rappelle que ces personnes voilées font partie intégrante de cette société française, et après on vient nous bassiner avec un projet de loi qui viendrait lutter contre le séparatisme. Mais c'est vous, politique, en vous comportant de la sorte, qui poussez au séparatisme. L'humiliation d'une personne n'est jamais bonne conseillère. Méditez ce point, Madame Lang. Allez, la leçon est terminée, que vous soyez voilée ou pas. Ici, nous sommes ultra tolérants. Appelez le 01 53 48 3000 pour poser toutes vos questions. Émission sous le contrôle de l'homme le plus tolérant du monde, hein, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro. Ah, si c'est pas beau ça. Du tac au tac, hein.
Ouais, c'est surtout la version originale, hein.
Ouais. Bon, on peut mettre l'autre version aussi.
Ouais, la version originale. Après, il y a eu la version de carte de séjour.
Carte de séjour, exact.
Vous vous souvenez, Maître Serrane, avec Rachida?
Ouais, voilà. Le regretté Rachida. Oui, voilà. C'était extraordinaire ça. Ouais.
Alors, c'était l'une des promesses du Grenelle pour lutter contre les féminicides, Maître Serrane. Après plusieurs mois, le bracelet anti-rapprochement destiné à tenir éloignés les conjoints et ex-conjoints violents est déployé dans 5 juridictions à partir d'aujourd'hui. Le nouveau garde des Sceaux a lancé la mesure hier. Alors, comment ça fonctionne, ce bracelet, Maître Serrane?
Alors, le bracelet anti-rapprochement, il faut savoir que la particularité, c'est qu'auparavant, il existait, hein, un bracelet similaire, mais exclusivement lorsqu'on était dans le domaine pénal. C'est-à-dire que lorsque madame déposait plainte à la suite de violences, donc on a un tribunal correctionnel donc qui a été saisi du dossier, et puis le tribunal correctionnel, parmi les peines qui étaient prononcées dans le cadre de cette audience, donc imposait parfois donc un bracelet à monsieur quand il était considéré comme violent, donc un bracelet qui, comme dit à l'autre, l'a émis un petit bip quand il se rapproche un peu trop de son conjoint ou de son ex conjoint, hein. Donc c'est un raisonnement qui est un peu plus large, ou alors de la personne avec qui il vit, donc une personne paxée. La particularité de ce bracelet et la mise en place de ce bracelet concerne les procédures civiles. Ça n'existait pas auparavant. Donc il faut savoir, on l'a évoqué ici, mais on l'évoquera dans d'autres émissions. On avait parlé de ce qu'on appelle des ordonnances de protection. Une ordonnance de protection, c'est quoi ? Donc on va oublier l'aspect purement pénal. L'ordonnance de protection, c'est lorsqu'une victime, et là essentiellement donc une femme, saisit un juge qui est le juge aux affaires familiales. Et on va demander au juge aux affaires familiales de prendre des mesures urgentes, des mesures pour la protéger contre les violences qui, bien évidemment, doivent être prouvées par madame. Alors, prouvées par madame, ce sont éventuellement des mains courantes, des témoignages et peut-être même des plaintes, mais sans qu'il y ait de condamnation pénale concernant monsieur. C'est-à-dire, je dépose plainte contre monsieur, le procureur de la République n'a pas encore audiencé l'affaire, l'intéressé n'est pas condamné au pénal, mais civilement, il faut bien protéger la femme victime de violence. Donc, il y a un juge, qui est le juge aux affaires familiales, à qui je peux dire, écoutez, voilà ce qui se passe, je veux que vous preniez une décision pour écarter monsieur du domicile conjugal. Et l'intérêt de ce nouveau système, c'est que le juge aux affaires familiales peut prononcer cette mesure après avoir saisi le parquet. C'est-à-dire on saisit quand même le représentant de l'État pour dire, écoutez, moi, juge aux affaires familiales, j'envisage ce système, donc ce bracelet, pour simplement qu'il puisse se déclencher si monsieur se rapproche de madame. Donc on a une certaine distance qui va être, comme dirait l'autre, réglée avec cet appareil. Et si, et madame aussi a un système qui permet de détecter ce bip, et si monsieur qui a ce bracelet se rapproche de madame, madame le sait, et à partir de ce moment-là, on envoie une information à monsieur en lui disant, attention, vous êtes un peu trop proche de madame ou du domicile de madame. Alors, soit il obéit et puis l'intéressé s'écarte et tout rentre dans l'ordre, soit il n'obéit pas, et dans ce cas-là, ça permet ou ça permettrait l'intervention des forces de l'ordre. Alors, il faut savoir quand même que c'est une mesure qui est d'abord rassurante pour les femmes, puisque ça permet de savoir si celui qui se comporte comme un prédateur est tout près de vous ou pas. Ce sont des choses auxquelles nous, avocats, sommes confrontés. Vous savez, c'est très difficile quand vous avez une femme qui vient vous voir et qui vous dit, voilà, je vais engager une procédure de divorce, ou alors, j'ai divorcé, mais l'intéressé, c'est-à-dire monsieur, continue d'harceler moralement dans un premier temps, et ensuite cet harcèlement moral se transforme en harcèlement physique et ensuite en violence tout simplement. Donc c'est vrai que c'est une mesure qui est intéressante, qui va peut-être permettre donc à monsieur, encore une fois, parce que c'est plutôt ce contexte-là, à monsieur de prendre conscience qu'au bout d'un moment, encore une fois, ben c'est soit il continue de faire le malin et d'écouter que lui-même, et puis ce sera la case prison, soit il rentre dans le rang, et puis ce bracelet donc sera au bout d'un moment retiré si on a l'impression que tout est OK et s'il n'y a plus de difficultés.
Bien. Pour l'instant, c'est quoi ? C'est une expérimentation ? C'est
alors voilà. C'est pour l'instant, c'est pas c'est, sur. Voilà, ouais. C'est pas sur tout le territoire français et parmi les juridictions concernées, on a la juridiction de Bobigny. Il faut savoir que Bobigny a toujours été à la pointe de ce genre de situation. C'est vrai que la juridiction de Bobigny a fait beaucoup pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc Bobigny fait partie de ce système. Il faut savoir que en Espagne, par exemple, c'est un système qui existe depuis très longtemps. Ça fait des années que ça existe. Donc c'est vrai que la France a pris beaucoup de retard. Au moment où on se parle, ils annonçaient la mise à disposition d'à peu près 1000 bracelets, donc 1000 systèmes. Alors est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu ? Moi, ça me semble pas très 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 important donc comme mis sur le marché. Mais bon, on va voir. Ça va être au fur et à mesure, et on va voir surtout comment réagissent d'abord lors des premières Lors des premières audiences, comment vont réagir les juges aux affaires familiales? Je le redis parce que c'était pas dans leur prérogative, donc ils pouvaient interdire à un monsieur de ne pas se présenter au domicile conjugal, mais ils avaient pas cette mise à disposition, ce moyen pour interdire, en tout cas détecter la présence de monsieur près de madame. Donc on va voir comment réagissent les juges aux affaires familiales. Et je le redis, alors Bobigny, encore une fois, fait partie de cette juridiction, on expérimente le système et c'est une bonne chose. Alors c'est une bonne chose, ça voudrait peut-être aussi dire que sur la Seine-Saint-Denis, les violences faites aux femmes sont un peu plus importantes que dans le reste du territoire. Donc on peut aussi l'interpréter comme ça, mais en tout cas Bobigny réagit et lutte efficacement contre ces violences faites aux femmes.
Bien, ce bracelet vient compléter un autre dispositif hein, qui était le téléphone grave danger hein, qui a été mis en place en 2014.
Ouais, un peu moins pratique quand même comme système, mais bon, enfin voilà, on va pas non plus cracher sur ce genre de système. Ce qui est intéressant, alors une fois que ce sera mis au point et comme dirait l'autre, là tout ça va se mettre en place tranquillement, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une volonté politique d'abord. Et en dehors de la volonté politique, donc il y a un suivi de la part des magistrats, il devrait y avoir un suivi de la part des magistrats. Alors ce que je vais vous dire n'est pas forcément lié, mais il faut savoir qu'on a beaucoup, beaucoup, en grande majorité des magistrates. Alors on se dit, est-ce qu'elles sont ou est-ce qu'elles seront peut-être un peu plus sensibles à ça, mais en tout cas, c'est je le redis, c'est quand même une bonne chose. Vous savez, quand vous recevez des femmes qui vous parlent la peur au ventre, et quand malheureusement, une fois qu'elles ont exposé leur situation, on arrive à cerner un petit peu, sans jouer le psychologue, la personnalité de monsieur. Il m'arrive parfois de dire à ces femmes que même lorsque le divorce sera prononcé, même lorsqu'on aura la décision définitive, elles ne seront pas, entre guillemets, débarrassées de monsieur. Et c'est ça qui est terrible. Vous voyez, on peut supporter les difficultés dans le cadre d'une procédure et on se dit quand la procédure sera terminée, on va tourner la page. Malheureusement, vous avez ce genre de personnes pour qui la page ne se tourne jamais. Et c'est très difficile pour une femme d'encaisser ça quand son propre avocat lui dit « De ce que vous me dites, c'est peu probable que monsieur vous laisse tranquille demain après-demain. »
Allez, dans un instant, vous répondrez aux questions des auditeurs de Beurre FM. Maître Serran, 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard de Beurre FM, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
The version.
Carte de séjour.
Ah ouais, carte de séjour, Rachida.
Eh ouais. Voilà, et vous êtes là avec Maître Serran, et vous posez vos questions au standard au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Alors on a Abdelkader qui est avec nous. Abdelkader, bonjour et bienvenue. Alors Abdelkader, rapprochez-vous de votre téléphone, enlevez le haut-parleur s'il est mis.
Ouais, là c'est bon.
C'est bon, alors on y va.
Ouais, bonjour, je suis Philippe. Salam alaikum, maître.
Salam alaikum, Abdelkader.
Ça va,
la baisse.
Ça va, alhamdoulilah.
Alhamdoulilah, ouais.
Je suis voisin de Tirac.
Ah bon?
Ah oui, je suis de Razaouet.
Oh, carrément! Un frère de Razaouet.
Exactement.
Bon, bah, voilà.
Le village de
Bon. Bon, ah bah bon, alors écoutez, donc les autres n'appelez plus, je vais discuter avec Abdelkader. Ah ouais, carrément, ah, ça fait plaisir, ça. Voilà, ça fait plaisir. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Roya?
Alors moi, j'ai juste parti dans la mairie où je vis là souvent. On a adhéré la résidence.
Ouais.
Je suis journaliste.
D'accord.
Et j'ai posé la question si je peux ramener une femme du bled pour passer à la mairie ici. Ils m'ont dit oui, les lois pour les Français et les Algériens, c'est pareil. Oui, il faut qu'elle envoie la photocopie de passeport et ainsi. On fait le mariage. Ça veut dire on déclare le mariage pour 10 jours. Si personne ne. Je suppose et tout, on vous donne ces documents et elle demande le visa.
Ouais, alors.
Je vais m'assurer à ce que.
Ça,
si
non, c'est pas.
Leur donne le visa ou pas.
Non, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que si la question c'est est-ce que madame peut venir, on va se marier sur le territoire français. C'est ça la question?
Ouais.
Non, alors si c'est comme ça. Les autorités consulaires vont pas vous croire sur parole. Ouais, donc en règle générale, ce qui se passe, c'est que la personne qui est sur le territoire français, alors soit avec sa carte, soit de double nationalité, va au pays, se marie au pays, et c'est une fois qu'on est marié au pays qu'on peut demander un regroupement familial. Mais dire au consulat, j'envisage de me marier avec madame, faudrait qu'elle vienne pour qu'on concrétise le mariage sur le territoire français, ça passera pas. Donc faut d'abord être marié, donc aller, faut aller au bled, il faut se marier là-bas, et ensuite faire les démarches auprès de, du consulat. Donc voilà comment ça fonctionne.
D'accord. Ben moi j'étais pas sûr qu'ils vont donner facilement comme ça le visa, sinon tout le monde aurait fait ça.
Non mais bon ben on est d'accord. Voilà, on est d'accord parce que juste dire tiens on va se marier, il faut que madame vienne, et une fois que madame elle est là. Comment est-ce qu'on peut... Voilà, il n'y a personne qui va vous obliger à vous marier. Non, il faut d'abord que le mariage se fasse au pays. Alors après, sauf si madame réussit à venir, j'ai n'importe quoi, comme touriste, et une fois qu'elle est en France, vous pouvez vous marier là. Mais si ce n'est pas le cas, non, il faut d'abord concrétiser le mariage au pays, et après seulement, à partir de ce moment-là, faire les démarches pour qu'elle vienne sur le territoire français. Le regroupement familial, il est quand même relativement long, hein, donc faut faire attention à ça. C'est-à-dire que voilà, la France n'est pas très généreuse par rapport à ça.
C'est pour ça que je voulais trouver une autre solution pour faire. Oui.
Il n'y a pas malheureusement d'entre guillemets de solution pour faire vite. Voilà, donc soit elle réussit à venir, j'ai n'importe quoi, elle est étudiante, elle vient comme touriste et puis le mariage se fait là. Si c'est pas le cas, le mariage se fera là-bas et ensuite seulement il faut faire une demande.
Voilà. Ok, d'accord, c'est clair.
Voilà.
Merci beaucoup.
Allez, à bientôt, Inch'Allah.
Merci Abdelkader.
Merci beaucoup, au revoir, merci Philippe.
Alors on va à Toulouse, Françoise est avec nous. Françoise, bienvenue.
Bonjour, monsieur Philippe.
Bonjour, madame François.
Bon, je ne sais pas parler bien français, mais je parle avec mes maîtres en arabe, s'il te plaît.
Alors, maître Sirane, Françoise veut vous parler en arabe.
Ouais, je suis pas le prince de la langue arabe, mais je me dis même pour les autres auditeurs, mais bon, allez-y, on va voir.
Oui, ça va faire rêve. Le marbillet, sauf l'Algérie, il a 8 ans. Je l'ai adopté. Bon, ça m'a demandé à sa maman. On va d'accord, dit-on, parce qu'elle est une française, alors dit-on le nom de village. Elle n'est pas les papiers, ça, on demande. Au bateau des cadeaux des bateau des réseaux que les expériences françaises, j'allais à l'institut, là, des photocopies, au bateau de corriger, là. Donc, on ne peut pas aller, là, on se fait une histoire dans la nourrice, on a ramené, là. On a eu un problème à l'aéroport. Alors, donc, ça, c'est ça, elle dit.
Donc là, le bunt, elle est où?
Le garçon, il est à l'Algérie.
Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle la kafala, le jugement.
Oui, non, je sais le kafala, je dis le
juste
à deux lanternes.
Le nom de
sa maman, alors je dis le nom de ta Dila, parce que moi, je m'appelle Dila, je suis une française.
Ouais.
Nous, donc, un nom, t'as pas oublié. Dalou, les ranakapis, le nom de ta Dila, si ça reparle, ça fait 6 mois, mais les dates, le nom.
Et là, pour l'instant, depuis 6 mois, il ne se passe rien.
Oui. Non, ça fait une semaine. Bateau des papiers et des carreaux. Original.
C'est normal. Mais si ça fait, une semaine, encore une fois, voilà, c'est-à-dire qu'il faut quand même, comme dire, laisser le temps au temps. Est-ce qu'ils vous ont donné un délai?
Non,
voilà, bon, bah donc il faut encore attendre un petit peu le délai normal. Alors, c'est toujours difficile. Voilà, c'est toujours difficile de donner un délai normal parce que c'est vrai qu'il y a pas la loi donne pas un délai précis, mais si vous avez donné les papiers là, on va dire ouais, il faut compter à peu près un mois et demi quoi, et à partir de là. Donc il faut patienter encore ce temps-là, et à partir de là, si vraiment il y a rien, ou là si ils vous ont pas envoyé des papiers, le quoi ou quoi que ce soit, à partir de ce moment-là, si vous voulez rappeler, vous pouvez rappeler, on regardera ce qu'il faut faire. Mais là, pour l'instant, le délai il est trop court. D'accord. Alors encore une fois, encore un mois ou là un mois et demi.
Alors, il n'y a pas un refus, ou des papiers à ma gueule, ça, il faut qu'on fasse ça.
Ouais.
Donc, on aura l'original qui est au
Mandat. Non, là, je ne peux pas dire est-ce que ça va être refusé ou pas. Là, non, c'est pas possible de dire ça. Là, pour l'instant, la procédure, elle est faite normalement. Maintenant, ils pourraient refuser, ils pourraient dire nous on veut pas. Oui. Maintenant, oui. Mais s'ils disent nous on veut pas, il y aura un courrier et après on peut faire des recours. Mais pour l'instant, voilà, il faut pas s'inquiéter, il faut suivre la démarche et vous êtes dans les délais. Là, il n'y a pas de problème. On est dans les délais. Ça fait pas tellement longtemps. Donc là, c'est normal.
D'accord. Il y a
peut-être pas. Allez, si voilà, dans un mois ou là, un mois et demi, ça avance pas ou là, il y a quoi que ce soit, eh ben, vous pouvez rappeler et puis on regardera ça avec plaisir.
D'accord.
Ça a heurté. À bientôt, Inch'Allah. Amen.
Merci Françoise. Alors, c'est Dalila qui est avec nous. Dalila, bonjour et bienvenue. Dalila.
Oui, bonjour.
Alors Dalila, bonjour. Pareil pour vous, si vous avez le haut-parleur, c'est plus pratique de l'enlever pour qu'on vous entende mieux.
D'accord.
Voilà, Dalila.
Voilà, donc je vous appelle de Bourges.
Oui.
Donc, ça fait un bon moment qu'on avait, on venait en France en tant que touriste avec des visas de circulation. Et lors d'un de nos séjours en France, notre petite fille a eu un accident, elle a eu une plaie de la cornée, elle a eu un crayon au niveau de l'œil.
D'accord.
Donc, elle a été opérée ici en France. Mais on est retourné, pour ne pas rester en situation régulière, on est retourné en Algérie.
Ouais.
Et lors de notre retour en Algérie, il fallait faire l'ablation des fils et continuer les soins. Or, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est Maître Serin qui est au courant de ce qui se passe en Algérie, on a eu la plus grande grève du personnel paramédical en Algérie. Et là, on n'a même pas pu faire l'ablation des fils.
Mmh.
Donc le médecin ici a appelé ma sœur et disait que la petite doit faire en urgence l'ablation des fils. Et nous, même au niveau du privé, avec notre argent, on n'arrivait pas à faire ça parce que le privé disent que puisqu'ils n'ont pas opéré, ils ne peuvent pas faire l'ablation des fils. Ouais. Au niveau du public, les chirurgiens disent on peut faire l'ablation des fils, mais il n'y a pas d'anesthésiste parce que ça doit se faire sous anesthésie pour une fillette de 6 ans. Du coup, on était contraint de revenir ici en France et continuer les soins. Quand on est revenu, on était en situation régulière vu que notre visa de circulation était toujours en cours de validité. Seulement, les soins ont pris beaucoup plus de temps parce qu'il y a eu des complications. L'ablation des filles ne s'est pas faite à temps. Donc, on a été voir la préfecture pour demander un prolongement de notre visa qui venait à expiration dans les 2 semaines. Ils nous ont fait une extension de visa de 3 mois. Mais ça n'a pas suffi pour que notre petite fille termine ses soins, vu que ça s'est un peu aggravé. Donc, ils nous ont conseillé de faire un truc, une demande auprès de l'OFI pour constater l'état de notre petite fille et éventuellement avoir un titre de séjour en tant que parent d'enfant malade. Alors, moi, j'ai accompagné ma fille au niveau de l'OFI et lors de la consultation, je vous assure qu'il n'y a aucun matériel, il n'y a rien. Il a vu comme ça, à vue d'œil, l'œil de ma fille. Et on s'est étonné qu'il délivre un avis défavorable. Donc là, au terme de cet avis défavorable de l'OFI, la préfecture nous fait une OQTF. Mmh. Donc on devait quitter le territoire français. Donc là, on était contraint, donc soit de repartir en Algérie et arrêter les soins de notre petite fille, parce que ça ne pouvait en aucun cas. Et les choses s'aggravent de plus en plus en Algérie, que ce soit le secteur sanitaire ou autre. Et tout le monde est au courant de ça. Donc là, on était soit obligé de repartir en Algérie ou rester en France en situation irrégulière. Alors pour éviter ça, on a saisi un avocat et on a été à la cour où le juge nous a donné gain de cause. On a eu gain de cause, donc il a émis un jugement à la préfecture pour nous délivrer un titre de séjour. Alors, la préfecture nous délivre des APS, pas de titre de séjour.
Des autorisations provisoires de séjour.
Voilà. Donc, avec ces autorisations provisoires de séjour, on ne pouvait pas travailler. Or, nous, quand on s'est présenté devant le juge, on a demandé à ce qu'on ait un titre pour pouvoir travailler. Parce que vous imaginez qu'on est toujours hébergé chez ma sœur. Au moins, quand les frontières étaient ouvertes, on pouvait faire parvenir de l'argent d'Algérie. Parce que ni moi ni mon mari pouvions travailler. Et je pense à votre connaissance qu'on a 3 enfants, dont une malade. Donc là, avec l'APS, l'avocat a dit non, c'est pas ça qu'il devait vous donner. Le juge a ordonné de délivrer un certificat de résidence algérien. Du coup, l'avocat a ressaisi le tribunal. Et le tribunal nous a donné encore gain de cause et il a demandé, parce que la préfecture n'a même pas fait recours de la décision du juge. Elle avait 2 mois pour le faire, ouais. Elle l'a pas fait. Et nous, quand on l'a fait, la cour nous a donné encore gain de cause. Et là, cette fois-ci, on nous donne un titre de résidence algérien, mais visiteur. Donc, même avec un titre comme ça, on ne peut pas travailler. Au moins, avec les APS, je vous dis franchement, avec les APS, on a eu quelques aides de la CAF. Mais là, on n'a même pas droit aux aides de la CAF, avec la mention visiteur. Ni CAF, ni droit de travail. Alors, on se demande, est-ce que ce n'est pas un acharnement? Là, on a envoyé une lettre à la préfecture pour dire que là, on appelle ça un recours gracieux, je pense.
C'est ça, mais vous savez, le droit est quand même bien fait, même si les préfectures sont parfois tordues. C'est-à-dire que de ce que vous me dites, je crois comprendre que la juridiction, le tribunal administratif, a été dans votre sens et dans le sens souhaité par votre avocat. C'est-à-dire que eux considèrent que vous méritez, et on comprend compte tenu de votre situation, que vous méritez un titre qui vous autoriserait à travailler. Est-ce qu'on est d'accord sur la nature de la décision qui a été rendue?
Oui.
Ça arrive. Alors, je vais pas dire souvent, mais il arrive parfois, on va dire, que les autorités préfectorales, donc, à qui ces décisions sont notifiées, c'est-à-dire qu'elles reçoivent le jugement pour dire, écoutez, moi, magistrat, j'ai décidé ça pour telle ou telle famille. Mais lorsqu'un préfet, madame, ne respecte pas une décision prononcée par un magistrat, les choses sont, entre guillemets, simples. C'est-à-dire que, moi je le fais dans d'autres dossiers, c'est-à-dire qu'on peut tout simplement indiquer, et j'avais presque, c'est même pas ressaisir le juge, mais envoyer un courrier au juge qui a rendu la décision, c'est-à-dire à cette juridiction, pour dire voilà, madame, monsieur le juge, vous avez ordonné ça, voilà la réponse des autorités préfectorales, et si la préfecture prend une mesure qui ne correspond pas, madame, au jugement qui a été rendu par le tribunal, c'est le président du tribunal lui-même qui, entre guillemets, fait sa police et qui impose et qui tape sur la tête du préfet pour dire « moi j'ai ordonné ça » et comme vous le dites très justement, si le préfet n'a pas contesté, eh bien il doit s'exécuter et rien d'autre. C'est-à-dire qu'on ne demande pas au préfet d'interpréter ou de dire « bah tiens, le juge dit ça, mais moi j'ai envie de faire ça ». Ça marche pas comme ça. Et encore une fois, et c'est la force de ces procédures, c'est-à-dire que je suis le président du tribunal, je rends une décision, elle n'est pas contestée par l'administration, l'administration doit l'appliquer à la lettre. Et si le préfet ne l'applique pas à la lettre, votre avocat peut, et je le redis, c'est même pas une procédure nouvelle, c'est simplement un courrier, alors recommandé à R, ou nous on fait plutôt ça, il y a un système d'RPVA, mais les avocats savent ce que c'est. Vous pouvez simplement ressaisir le même juge pour dire... vous avez ordonné ça et puis le préfet n'obéit pas. Et le magistrat, encore une fois, il se rapproche de l'administration et donc du préfet pour l'obliger donc à appliquer la décision. Donc ça, c'est techniquement possible. Et moi, je l'ai fait encore une fois dans des procédures similaires où vous avez l'administration qui, malgré un jugement, n'en fait qu'à sa tête. Bah, ça marche pas comme ça. Donc ça devrait pas être, entre guillemets, très compliqué.
Oui, mais ce qui est fou, c'est qu'on nous délivre un certificat de résident algérien, visiteur. C'est un titre qui devrait être attribué à la demande de l'intéressé et je dois m'engager que j'ai suffisamment les moyens pour avoir un tel titre.
J'entends bien, madame, mais encore une fois, bon, après, vous savez, enfin, on va pas faire semblant, c'est ce qu'on appelle, nous, la mauvaise foi de l'administration, et en particulier en matière de droit des étrangers. Enfin, voilà, elle est légendaire. J'ai du mal à croire que ce serait pas fait exprès, qu'ils s'en seraient pas rendu compte. Bon, pardon pour le terme qui est pas joli, c'est pour emmerder, et puis c'est tout. Sauf que... ils auraient le droit, si le préfet a envie de vous embêter, il pourrait vous embêter, mais on est dans un pays de droit. Quand un magistrat dit il faut faire ça, le préfet, même s'il a un peu de rancœur à votre encontre ou à l'encontre de la décision, il doit appliquer la loi. Donc, en principe, si vous vous rapprochez de votre avocat simplement en lui disant, enfin, il le sait, le juge dit ça et le préfet fait ça, je le redis, c'est un simple courrier, c'est même pas une nouvelle procédure.
Du jour même où j'ai reçu le titre, j'ai contesté, donc j'ai demandé à la personne qui était à l'accueil de voir un responsable, et je dis, madame, là je peux pas travailler. Elle me dit, oui, c'est que normalement on vous délivre même pas ça, vu que l'OFI a émis un avis défavorable.
J'ai dit,
mais le jugement a dit
qu'on... On est d'accord, madame, vous savez, ça sert à rien de parler à ce genre de sbires ou à ces sous-fifres, que votre avocat renvoie simplement un courrier au président ou à la juridiction qui a rendu la décision. Et vous verrez qu'il recevra une réponse et la juridiction dira on va se rapprocher du préfet. Et ça devrait franchement rentrer dans l'ordre sans difficulté.
Voilà Dalila, merci pour votre appel. Allez, Maître Serran répondra à vos questions dans un instant. Si vous n'arrivez pas à passer à l'antenne aujourd'hui, vous pouvez l'appeler sur son téléphone portable, Maître Serran.
Absolument, au 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
AVS revient dans un... Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, Maître Serran répond à vos questions juridiques au 01 53 48 3000. Tiens, il y a Idir qui est avec nous et qui attend dans la salle d'attente. Idir, bienvenue.
Bonjour, j'ai oublié votre prénom.
Alors, moi, je suis Philippe, et puis vous avez Maître Mourad Serran qui est là et qui vous... Et qui
bonjour
vous attend.
Philippe, j'ai un trou de mémoire un peu là, par rapport à vous.
Faut consulter.
Il n'y a que ça à faire.
Je suis chauffeur Uber et je vous écoute tous les matins.
En plus.
On a parlé, la semaine dernière. Tiens, d'ailleurs, on a eu un grand sujet sur les chauffeurs Uber la semaine dernière. Je ne sais pas si vous
souvenez. Oui, absolument. Ouais. C'est après le type qui nous a appelé pour nous dire qu'il a arnaqué l'État, c'est ça, non?
Non, arrête.
Non, non.
Idir, qu'est-ce que vous voulez demander à Maître Serran?
Je voulais demander, en fait, j'ai ma sœur avec son mari et deux enfants, ils habitent aux États-Unis, ils ont la nationalité américaine.
Oui.
Et ils ont un bon CV, en fait, ma sœur c'est une dentiste, son mari, pareil, il a un bon poste et tout. Et ils aimeraient bien rentrer en France, mais ils n'ont pas la nationalité française, c'est dans la nationalité algérienne et américaine. Est-ce qu'il y a moyen, il y a possibilité, est-ce que... Je ne sais pas comment ça se passe, en fait.
Enfin, bon, il n'y a pas de, comme dit l'autre, de ce que vous me dites de la famille. A priori, ils ont des postes qui pourraient bien évidemment intéresser les autorités françaises. Donc voilà, la démarche est la même. Faut qu'ils partent au consulat ou à l'ambassade de France, qui dépose un dossier donc pour pouvoir venir s'installer sur le territoire français. Alors je dis pas que ça va se faire simplement, mais on constate quand même que pour certaines nationalités ou double nationalité, vous me dites qu'ils ont aussi la nationalité américaine, ou pour certaines activités professionnelles, les autorités françaises sont plus enclines à accepter la présence donc de ces personnes-là. Donc, alors je dis pas que ça va être un parcours très simple, mais ça va être un parcours quand même beaucoup plus. En tout cas, ce sera facilité par rapport au type qui dit je viens du Maroc ou d'Algérie et et je suis maçon. Vous voyez, donc ils feront entre guillemets partie un peu des privilégiés.
D'accord, donc ils ont plus de chance.
Vous savez, en tout cas, la France n'est pas folle, mais c'est même pas une critique. Je peux entendre et comprendre, c'est-à-dire que on fait venir aussi des talents, on fait venir des gens qui ont des compétences intéressantes. Donc oui, ils pourraient venir sans difficulté.
Ils habitent où aujourd'hui, Idir? Ils vivent où?
Pardon?
Ils vivent où aujourd'hui?
Ils vivent en Californie, vers Oakland.
D'accord. Ils votent pour Trump ou pas?
Ah, pas du tout.
Ouais, parce que ça aide.
Bientôt, on va demander l'asile politique pour les Américains qui sont là. Mais ils préfèrent venir vivre en France.
Oui, parce qu'il y a toute la famille ici, ils en ont marre d'être loin là-bas. Et ils ont un bon CV, hein. Donc, je vous ai dit, ma soeur, elle est dentiste.
Bah ouais, mais ouais.
Son mari, pareil et tout. Donc, sur leurs enfants, ils sont nés, les deux enfants, ils ont deux enfants, ils sont nés là-bas.
En fait. Ah ouais, parce que le raisonnement, j'avais l'impression, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les gens se disent, bon, si je peux partir aux États-Unis, au Canada, c'est presque le Saint Graal. Mais, voilà.
C'est par rapport à la famille.
Ah non, mais j'entends bien, bien sûr. Mais c'est, voilà, ça arrive tellement peu souvent. Que ouais, les ouais. autorités françaises pourraient, entre guillemets, être sensibles à ça. Encore une fois, c'est faire venir des talents, faire venir des personnes qui ont des compétences. Donc, il est certain qu'il vaut mieux être dans la situation de votre sœur, de son mari et de leurs enfants, encore une fois, qu'un type qui vient d'Afrique du Nord et qui dit, encore une fois, ouais, j'ai pas de diplôme et autres. Donc, je le redis, ça devrait quand même se passer sans grande difficulté. La France n'est pas folle. Voilà, donc elle accepte volontiers les talents.
Ouais, oui. En fait, j'ai eu la dernière fois une cliente, une américaine, elle est avocate. Une américaine avocate. Donc je suis tombé sur le bon profil, je voulais dire. Et je lui ai posé la question. Elle m'a parlé d'un investissement. Elle m'a dit qu'ils peuvent, s'ils veulent, ils peuvent investir. Je sais pas, il y a une somme à mettre, je crois. Ouvrir je sais pas quoi.
Non, alors sur le territoire français, il n'y a pas ce système-là. C'est-à-dire que souvent, je l'entends, on me dit, maître, si j'ai n'importe quoi, j'achète un appartement, j'investis dans une société. Est-ce que non? C'est-à-dire qu'on peut acheter un appartement, on peut investir dans une société. Ça ne veut pas dire pour autant, parce que souvent c'est dans l'esprit de ceux qui nous posent la question, ça ne veut pas dire pour autant que automatiquement la France va dire oui, ok, les gars, vous êtes les bienvenus. Ça fait bien évidemment partie des éléments à prendre en considération qui permettent de sortir cette situation, cette famille du lot.
Oui.
Voilà.
Oui,
donc quand vous venez avec le profil de ces personnes-là, et si en plus vous investissez, oui.
Oui, c'est un peu comme en Espagne, il y en a beaucoup d'Algériens, ils ont acheté des appartements quand il y avait la crise, ils ont eu la nationalité espagnole.
Ouais, mais en France, ça marche pas comme ça. Hein.
Oui, oui.
En France, c'est pas lié à ça.
Je crois qu'elle m'a, en fait, elle m'a dit le contraire. C'est pour ça que je suis un peu mis dans l'anglais.
Ouais, non, mais voilà. Non, mais honnêtement, c'est vraiment une question qui nous est souvent posée hein, par nos clients. On peut évidemment acheter, mais c'est pas parce que j'achète que la France va dire, eh ben, bienvenue. En plus, vous avez un titre de propriété. Ouais. Non, ça c'est faux. Et on a parfois des personnes qui ont fait un investissement et la France a dit non. Donc voilà, ouais. c'est pas forcément corrélé. Hein.
Donc la solution c'est d'aller vraiment au consulat français.
Ah bah là oui, je le redis. Enfin de ce que vous me dites, voilà, ils ont un profil entre guillemets qui sort un peu de l'ordinaire et qui, vous savez les. Enfin, la France, mais c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire, vous dites, je suis algérien, on vous regarde de travers. Si vous dites, je suis de double nationalité, dont la nationalité américaine, on vous fait un gros sourire. Donc ça aide. Voilà, quand vous venez du Canada, des États-Unis, on vous regarde autrement, donc et on s'intéresse davantage à votre dossier. Donc ils ont évidemment toutes leurs chances, en tout cas plus de chances que celui qui traverserait simplement la Méditerranée.
Parfait, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous pour votre appel.
Et continuez à nous écouter dans votre voiture, alors y dire.
Mais tous les matins, même quand vous faites l'émission des achats, des gens et tout ça, et des bonnes affaires. Je vous fais de la pub. Hein,
les petites annonces de Beurre FM, Idir. Voilà. Bonne route, à bientôt en tout cas, Idir.
Merci beaucoup.
Au revoir, Idir. Alors, on termine avec Ahmed qui nous appelle de Nantes. On a 5 minutes, Maître Serran. Ahmed, bienvenue.
Oui, bonjour Philippe, bonjour à Maître Serran.
Bonjour Ahmed.
Ahmed. 5 minutes, ça vous va? Ça vous va ou pas?
Oui, 5 minutes. Ça avait été une femme, il faut une demi-heure. Mais Ahmed, oui, 5 minutes pour un type, ça va. On vous écoute, Ahmed.
Une question pas trop compliquée, en fait. J'ai ma belle-mère qui est en France, qui est sans-papier, on va dire. Elle a ses 3 enfants en France mariés et bien installés, on va dire qu'ils ont un travail stable avec des revenus convenables qui payent leurs impôts. C'est ma belle-mère. Elle est atteinte d'une maladie, en fait. Elle est obligée d'aller à l'hôpital 3 fois par semaine pour le dialyse. Donc actuellement, elle va 3 fois par semaine pour faire ses... Mais comme elle n'a pas de titre de séjour, moi-même, j'ai constitué un dossier pour la préfecture de Loire-Atlantique où j'avais envoyé tous nos pièces d'identité avec les avis d'impôt et puis preuve qu'on a un travail et qu'on a des... pour qu'elle puisse bénéficier d'un titre de séjour à titre humanitaire. Mmh. J'ai fait la demande au mois de février 2020, janvier-février, on va dire. Après, il y avait la crise sanitaire, donc on n'a pas eu pu suivre le dossier. Actuellement, on n'a pas reçu de réponse. Donc, ma question est simple. Est-ce que la préfecture est dans l'obligation de répondre à ma demande ou il faut espérer avoir une réponse?
Non, alors là, il faut savoir que dans ce domaine-là, la préfecture n'est aucunement obligée d'apporter une réponse écrite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous saisissez les autorités préfectorales, on considère, mais alors, vous, c'est assez particulier parce que c'était en pleine période de crise et on a des lois qui ont prorogé les délais. Mais moi, je vous conseille plutôt de refaire, monsieur, une nouvelle saisine. La règle étant que je saisis les autorités préfectorales, ils ont un délai de 4 mois pour m'apporter une réponse. Alors la réponse, si c'est oui, ça s'arrête là. Si c'est non, il y a une obligation de quitter le territoire et puis ça se conteste devant le tribunal administratif. Mais l'administration a le droit de garder le silence. Le raisonnement étant de dire que si je garde le silence, c'est ce qu'on appelle en droit un refus implicite. C'est-à-dire je ne réponds pas à partir d'un certain délai, ça veut dire non. Et à charge pour vous, pour votre belle-mère, de saisir le tribunal. C'est-à-dire en disant, attendez, moi j'ai saisi la préfecture, ils m'ont pas répondu, donc ça veut dire non, donc je demande au tribunal d'examiner mon cas. Donc, mais donc, la préfecture a le droit de pas répondre. C'est vrai que
il y a pas une règle qui dit qu'il ne dit mot consent.
Non, oui, non. En tout cas, ça s'applique pas pour
ça,
le
ça
droit des étrangers.
Droit des étrangers.
Voilà,
non, d'accord.
C'est l'exception à la règle justement. Donc le voilà, faut faire attention à ça. Souvent, quand on a des personnes qui viennent nous voir ou qui nous contactent, on nous dit écoutez, ça fait X temps, mais bon, est-ce que je dois attendre? Non, faut faire attention. Vous faites une demande. Recommander à R pour bien dater le début de la demande et à partir de là vous computez, comme on dit, vous comptez les délais. Mais si monsieur dans ce timing de 4 mois il y a rien, il faut pas vous dire tiens on va attendre 5, 6 ou 7 mois. C'est la loi, c'est-à-dire que à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un refus implicite, ça vous autorise ensuite à aller devant le tribunal. Mais votre d'accord, belle-mère, donc, elle était déjà souffrante quand elle est venue ou ça lui est arrivé sur le territoire français?
Non, ça lui est arrivé sur le sol français.
Bon,
elle avait un problème de reins et puis après ils ont trouvé ses reins sont dégradés au bout d'accord. d'un moment. Ouais. Et arrivant en France, on l'a emmené à l'hôpital. Ils ont dit non, madame, pour vous, il faut absolument le dialyse tout de suite.
Donc, non, encore une fois, bon, j'espère que ça pourra se régler tout simplement dans les autorités préfectorales, mais après c'est la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des certificats médicaux qui établissent deux choses, d'abord la réalité de la pathologie, et deux, il faut aussi que dans ce certificat médical, on laisse entendre qu'un retour au pays présenterait un danger, ou alors qu'au pays, on n'aurait pas les moyens techniques de s'occuper de l'intéressé. Vous voyez, donc il y a deux éléments à réunir. Si on d'accord. nous dit, elle vient d'où, d'Algérie?
Oui.
D'accord.
Oui.
Donc, voilà, si on nous dit, sa vie n'est pas en danger, et puis dès qu'elle arrive en Algérie, elle pourrait être suivie, il pourrait vous répondre ça. Ça se conteste.
Et maître, c'est pas un appui d'avoir 3 enfants de nationalité française, son époux qui est décédé.
J'entends bien, monsieur, mais elle est pas venue pour dire j'ai des enfants en France. Vous voyez, le truc, c'est vous me dites elle est là et elle se soigne. Donc faut faire attention, hein. Alors c'est des éléments en plus, mais c'est pas ça qui va bouleverser la donne.
Bon, Ahmed, on avait 5 minutes, hein. Vous pouvez appeler Maître Serran sur son téléphone portable. Après, Maître Serran, redonnez-le rapidement.
06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Voilà. On vous retrouve vendredi prochain, Maître Serran. Dans un instant, c'est l'islam au présent sur Beurre FM. Et l'imam Abdelali Mamoun sera avec vous d'ici quelques minutes.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.